un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Las Cases, 1953. Exact.
Anthony Rollet, bonjour.
Bonjour.
C'était Louis de Funès dans le film L'aile ou la cuisse. Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est le soleil. C'est beau comme définition.
Mais c'est tout à fait bien dit. Et d'ailleurs, on pourrait continuer. Tous les auditeurs ou les auditrices qui aiment le vin font exactement le même processus lorsqu'on ouvre. On a ce qu'on a. La terre, c'est simplement les textures premières, ce qu'on appelle aussi la marche, quelquefois. C'est ce qui donne effectivement cela. L'essentiel étendu au terroir. Puis, vous avez les effets climatiques, ce que de Funès disait très bien, c'est-à-dire suivant l'orientation au soleil, la hauteur dans une pente, la proximité ou non de l'eau, le drainage plus ou moins rapide, ce qu'il a plu. Et puis après, alors la chose qu'on pourrait ajouter, c'est-à-dire ce qui fait le goût d'un vin, c'est le savoir-faire du vigneron, ce qui fait qu'en bouche, vous avez effectivement des saveurs secondaires qui aboutissent les trois ensemble à ce qu'on appelle en technique la pointe de synthèse, c'est-à-dire où le moment où vous avez ce plaisir invraisemblable, quel que soit le prix du vin. Le Léoville Las Cases, qui est un vin admirable là, mais ça vaut aussi bien pour les Côtes du Rhône Village, les vins de Loire ou autres. Et c'est le moment où ça descend. Ça vous descend dans la gorge ou ça remonte?
Parce que beaucoup de gens disent que c'est une affaire de spécialiste, j'y comprends rien. En fait, il suffit effectivement. Et puis le goût est différent puisque la terre n'est pas la même partout, le soleil n'est pas le même partout, ni selon les années, on l'a bien vu cette année. Le travail du vin est différent, il n'y a pas deux vins qui se ressemblent. C'est d'abord une histoire de goût, dites-vous. D'ailleurs, c'est le sous-titre, Anthony Rollet, du livre que vous venez de publier chez Découverte Gallimard, Le vin, une histoire de goût. Et c'est aussi une histoire tout court. Est-ce qu'on peut dire, dans votre livre, vous évoquez Noé, que j'ai dit tout à l'heure, qui a inventé le vignoble? Parce que le vin, c'est d'abord l'histoire du vignoble.
Oui, tout à fait. Alors, sur le vignoble,
les premiers vignobles.
C'est très bien ce que vous dites. Il n'y a pas d'inventeur du vignoble, il y a un inventeur du vin. Le vignoble, on va faire simple, c'est un enfantement terrestre. Donc, il n'y a pas de compétition. On verra tout à l'heure pour le vin. Mais pour le vignoble, c'est un enfantement terrestre et géographique. Ici, si vous voulez, ce qui est intéressant, après on aura une compétition sur la datation, je vais y venir. Mais là, c'est une sorte de bande très classique qui s'arrête pour nous à peu près à la hauteur de Cambridge en Angleterre. Voyez, bon. Donc, il faut ça, et tout le monde est d'accord, il n'y a jamais eu de contestation pour qu'il y ait du vin, de la vigne. Ensuite, c'est le point de départ qui est intéressant. Parce que toutes les grandes civilisations, pour une raison simple, parce que la vigne, via le vin, aura la propriété de communiquer avec plus haut, on le verra tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que les Chinois, d'une part, et jusqu'à Mao Tse-tung, qu'on n'aurait jamais cru imaginer par ça, vont exhumer des os lavés au vin pour montrer que, ah non, pas du tout,
nous on a inventé
la vigne, et d'ailleurs, ça ne se situe pas par hasard, ça se situe au moment du schisme communiste entre l'Union soviétique, qui justement, comme vous l'avez dit dans votre chapeau, prétendait, à l'aide de la datation au carbone 14, avoir inventé la vigne en Géorgie. Mais tout le monde s'est battu, tout le temps.
Il est né dans les livres, hein, dites-vous, Anthony Rollet, le vin. Parmi les livres, justement, il y a un poème écrit il y a 2800 ans, l'Odyssée d'Homère, où Ulysse fait boire du vin au cyclope Polyphème.
Je désire que tu me goûtes ceci. Comme ça, nous serons mangeables.
Qu'est-ce que c'est?
Du vin.
Du vin? On dirait du sang.
J'en ai. Oui? N'est-ce pas le sang de la vie?
Oh, il est bon, oui. Dis donc, avec quoi tu as fait ce sang?
Mais grave.
Bravo, Greg. Remerciement, grâce à toi, je sais ce qu'il y a dans ces petits vins rouges.
Ah, du vin pour Polyphème. le fils de Neptune.
Et on sait ce qui a suivi. Un Polyphème ivre mort s'est laissé crever les yeux, a laissé Ulysse et ses compagnons s'échapper. Qui a eu la première idée de fabriquer du vin? C'est quand même pas évident, c'est pas naturel. Le raisin, certes, bon, il naît grâce au soleil, le vin.
Alors, c'est très intéressant ce que l'on vient d'entendre, parce que ici, voilà, eh bien, mais c'est la mauvaise ivresse. Il y a la bonne et la mauvaise ivresse. Ici, la mauvaise ivresse, c'est celle qui conduit à la perte de ses sens. Le cyclope est aveuglé, de la même manière que même le demi-dieu Hercule est aveuglé. Donc, il y a toujours, c'est très important pour la suite, l'histoire du vin, elle est exactement dans une balance entre les effets bénéfiques, les effets maléfiques. Maintenant, je réponds à votre question. Le vin, c'est très simple. Dans les livres, vous en parliez. Là encore, concurrence. Et bien évidemment, on renvoie concurrence très simple, parce que le vin, ça permet, je l'ai dit tout à l'heure, de communiquer avec les dieux par le biais tout simplement des libations. Les premiers textes, nous les avons à la fois dans la Bible, notamment dans la Genèse. C'est l'épisode de Noé que vous avez rappelé en commençant l'émission. La vie, le texte, je cite de mémoire, de la Genèse, c'est après donc le déluge, Noé planta la vigne. C'est le signe du retour à la paix, exactement comme la colombe et le rameau d'olivier. Il faut savoir que les Égyptiens ont eux aussi une datation à peu près similaire. Tout ceci, on tourne autour de moins 5000 à peu près, mais là encore, ne pas penser que cette écriture du vin dans les livres est uniquement une écriture d'abord de la Bible, puis après on le verra d'autres religions dites du livre. D'autres écrits, par exemple chez les Assyriens, mentionne aussi du vin.
Alors il y a les Grecs, hein, les Grecs, on l'a entendu dans cet extrait donc de l'Odyssée, hein, qui d'ailleurs ont répandu le vin dans tout le bassin méditerranéen avant même que les Romains ne boivent du vin. Marseille déjà avait ses vignobles parce que c'était une colonie grecque en 6 siècles avant Jésus-Christ. Et puis alors Rome, donc effectivement. Alors là vous citez de grandes beuveries, hein, vous dites que Marc-Antoine buvait 2 conges de vin d'un trait, c'est-à-dire 6,5 litres d'un coup. C'était extraordinaire ce qu'on buvait de vin à Rome, dans l'Antiquité romaine.
Oui, on boit beaucoup de vin. Alors là encore, essentiellement parmi les dirigeants. Hein. Mais on boit du vin pourquoi? Parce que le vin est réputé nourrissant et reconstituant. Toujours l'ambivalence dont je parlais. Il permet d'aller au combat. Il donne. Le vin est indispensable des armées. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des Babyloniens. Vous avez un célèbre tapisserie, l'étendard dur, où l'on voit que la première chose que fait le roi vainqueur, c'est de piquer les tonneaux et les embarquer. Les Romains, c'est pareil. Et, toujours ambivalence, une des raisons de la propagande romaine qui explique la défaite de Cléopâtre et de Marc-Antoine à la bataille d'Actium, c'est qu'il aurait pris du mauvais vin, vin égyptien, c'est-à-dire le vin de la concurrence, qui, comme par hasard, on fumait, c'est le terme employé à cette époque. Les Romains vont consommer, ils vont adapter le vin grec, ils vont adapter et l'adopter, ils vont essayer de le concurrencer dans un troisième temps.
Les Romains, hein, pas les Romaines, si tu surprends ta femme en train de boire du vin, disait Caton, tue-la. Alors, les Romaines n'avaient pas droit.
Mais pour les raisons que nous avons évoquées tous les deux, le vin étant ambivalent et la femme étant considérée comme très inférieure dans le comportement à l'homme, elle est exposable d'abord à l'ivresse. Donc, si elle boit, elle doit boire debout. Et en plus, très modérément, et c'est seulement au deuxième siècle après Jésus-Christ qu'elle aura le droit de boire comme les hommes.
En tout cas, les Romains sont très fiers des vignes, hein, qui poussaient en Toscane et jusque sur les pentes du Vésuve à Pompéi.
Laisse-moi t'offrir l'opulence de notre merveilleuse cité. Elle est riche en barriques pleines de vins vieux et en filles jeunes et jolies. Ils sont poussives.
Reste à distance. Je ne supporte pas l'odeur du vin.
C'est une fête blanche. Mon pays m'en sera reconnaissant.
Qu'as-tu ? Il ne faut pas être aussi triste à une telle fête. Ce n'est pas ainsi qu'on honore la déesse Isis.
faut montrer de l'enthousiasme.
Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon d'honorer les dieux.
Et pourtant, Anthony Rollin, dans toutes les religions, le vin était célébré, il avait ses dieux, il y avait Ré en Égypte, il y avait Dionysos, évidemment, ou Bacchus en Grèce et à Rome, qui était prétexte à ces fameuses bacchanales.
Oui, et on l'a déjà dit tout à l'heure, le vin sert à communiquer avec les puissances qui nous dominent. Voilà ce que se disent les anciens. Et donc, il faut à la fois leur faire honneur, et leur faire honneur en leur donnant le meilleur du travail, c'est-à-dire ce que l'on a élaboré, le vin. Bon. À partir de là, puisque le vin est agréable aux dieux, il va être agréable aux hommes. Et donc, en retour, le dieu qui dispense les bienfaits est un dieu qui donne du vin agréable à boire, mais toujours la même chose, ambivalent. C'est-à-dire que Dionysos va punir les géants comme il punira le cyclope dont nous avons entendu parler tout à l'heure, de la même manière qu'il punira le roi Lycurgue qui prétendait concurrencer la vigne de Dionysos. Autrement dit, c'est ça qu'il faut retenir, le vin a un caractère divin, mystérieux, magique, on ne le connaît pas tout à fait.
Y compris pour le christianisme, il faut rappeler que c'est évidemment le sang du Christ, hein. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, dites-vous, Anthony Rollet, que, après les grandes invasions, la chute de l'Empire romain, qui a conservé, au fond, les vignobles et la tradition viticole, ce sont les moines. Il fallait du vin pour la messe.
Mais c'est très logique. Là encore, le christianisme, il n'y vient pas de nulle part. C'est une religion du livre qui s'inspire de la tradition biblique et en même temps qui est dans un monde romanisé. Et donc, c'est normal que le vin soit indispensable, présent. Le vin dans la tradition chrétienne, c'est ce qu'on appelle le pressoir mystique. C'est-à-dire que le Christ, en donnant son sang, eh bien, il régénère, il donne une chance à l'individu qui croit, eh bien, d'accéder à la résurrection. Donc, on est bien dans la même logique divine. Il n'y a pas de rupture.
Alors,
Oui, je reviens aux moines. Les moines, ils ont tout simplement, ne jamais oublier que le vin, c'est aussi une question d'économie. Ils ont des besoins qui sont les messes quotidiennes, qui sont le service de... Quand je dis les messes quotidiennes, à l'époque, ce sont des dizaines de messes quotidiennes. Je me suis amusé pour ce livre à calculer une estimation des messes qui étaient célébrées au Moyen-Âge dans une ville comme Séville ou Paris, on doit être aux alentours du millier quotidien. Donc, il faut qu'ils fassent du vin. Il faut qu'ils fassent du vin blanc, c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi le vin de messe est-il blanc? C'est la pureté.
Parce que vous dites même qu'il y avait 100 000 hectares de vignes étaient cultivés par les moines en France au Moyen-Âge, avec la plupart des grands crus qu'on connaît, Beaune, Volnay, Pommard, Châteauneuf-du-Pape, c'est du vin de messe, en fait, à l'origine.
Religion, économie. Religion, il y a une règle, c'est la règle des monastères, la règle de Saint-Benoît. C'est les bénédictins qui sont à l'origine de cette révolution. Il faut donc travailler. Travailler la terre, et pas uniquement l'esprit. On fait quoi? On travaille la terre, c'est-à-dire qu'on adapte la vigne, on l'entretient, puis on vend les produits qui permettent de faire vivre le monastère. C'est comme ça que le Chablis arrive à Paris, c'est le seul vin de Bourgogne qui est comme par hasard vendu sur le marché, parce que les moines sont aussi vigilants, ils ont obtenu un privilège du roi.
C'est comme ça que le vin aussi va arriver dans le Nouveau Monde, puisque les moines d'Amérique, enfin venus d'Europe, vont installer, puisqu'ils ne peuvent pas l'importer, du vin en Californie, dès cette époque-là, dès le XVIIe siècle à peu près, je crois.
À Sacramento, à San Francisco, et comme par hasard, on trouvera aussi la concurrence entre moines, San Francisco, comme son nom l'indique, les franciscains, et du côté de Los Angeles, des héritiers, des bénédictins, deux vins différents, et aujourd'hui la typicité n'est pas la même.
Vous avez parlé de vin blanc, Anthony Rollet, pourquoi on ne buvait? Je crois que le bon vin, dites-vous, c'était obligatoirement du vin blanc.
Mais c'est pour la raison simple de la pureté. Et donc, le vin blanc, c'est à la fois la pureté religieuse en voie chrétien, et la pureté ancienne, car le vin des Romains, qui était devenu le synonyme du mot nectar, on disait falerne, c'était un synonyme, eh bien, il était censé être blanc, ce qui est normal, parce que c'était un vin qui était récolté sur des raisins laissés sécher au soleil.
Il y avait du rouge aussi, quand même.
Pas de vin rouge. Le vin rouge, il vient après. Le vin rouge, il vient... on apprend à le faire, je suis d'accord avec vous, mais il est considéré comme du vin rugueux, du vin rude, du vin qui nettoie l'estomac.
C'est pour ça qu'on le coupait.
Mais bien entendu, on le coupe. Pourquoi? Parce que on a peur de son alcool, de son taux d'alcoolémie, enfin de son taux d'alcool plutôt. Et en même temps, c'est aussi une question de civilité. Ne pas couper son vin, c'est se comporter comme un ivrogne. Toujours ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui se comportait comme des ivrognes autrefois? Les Gaulois. Qu'est-ce qui se comporte comme des ivrognes à l'époque du Moyen-Âge? Les Allemands.
C'est ce qu'on appelait donc le vin coupé, le vin rouge, c'est ce qu'on appelait du vin claret.
Quand je bois du vin claret, tout
je bois du vin claret, tout
je bois du vin claret,
quand je bois du vin claret, tout
je bois du vin claret,
quand je bois du vin claret,
quand je bois du vin claret,
tout
je bois du
vin claret,
quand je n'en bois
pas,
tout
je bois du vin claret,
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les origines du vin.
Et c'était l'ensemble L'Amorache, quand je bois du vin claret, une chanson à boire de la fin du Moyen-Âge, une époque où les moines ne se contentaient pas de fabriquer ou de boire du vin, ils savaient aussi en parler et en faire parler, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Alors, au XIIIe et au XIVe siècle, particulièrement en France, on produit et on consomme de plus en plus de vin sous l'impulsion notamment donc des moines, ces bons moines, hein, excellents vignerons et amateurs de bons vins. Au XIIIe siècle, par exemple, un franciscain italien de passage à Auxerre est ravi d'y découvrir, je cite, un vin blanc parfois doré qui a de l'arôme et du corps, une saveur exquise et emplit le cœur d'une joyeuse assurance. Sans complexe, hein, le moine. D'ailleurs, pourquoi en aurait-il? Puisque même Thomas d'Aquin, père de l'Église, hein, monsieur sérieux, aime le vin, qui, selon lui, permet d'atteindre une ivresse comparable à celle du sacré. Le vin réconforte, le sang du Christ assure la rédemption, dit saint Thomas d'Aquin. En sans crainte de l'enfer, donc, on peut boire et produire du vin. À la fin du XIVe, le duc de Bourgogne rend hommage à ses vignerons qui, dit-il, produisent les meilleurs et plus précieux vins du royaume, consommés par le pape, le roi et plusieurs grands seigneurs. Et pour que ces vins soient toujours les meilleurs, le duc ordonne, je cite, d'arracher et de ne plus planter le très mauvais et très déloyal plan de Gamay, lequel donne grande abondance de vin, mais ce vin est moult nuisible à la créature humaine, car il est plein de très grande et horrible amertume. Il faut donc extirper ce cépage, le détruire et mettre à néant. Alors, au Moyen-Âge aussi, goûter le vin est une affaire sérieuse. Voici quelques préceptes d'un agronome italien. Ceux qui sont experts et connaisseurs en vin l'éprouvent et le goûtent quand le vent du midi vente, parce que ce vent remue et réveille le vin et montre ce qu'il est. On doit toujours déguster le vin à jeun, et non après avoir mangé de nourriture amère ou salée, ni autre chose qui altère le goût. Mais quand il aura bien digéré, il pourra alors goûter. Ben, c'est vraiment au XVIe siècle qu'est consacré le règne de Bacchus, le dieu du vin, chanté bien sûr par tous les poètes de la Renaissance, Ronsard, Du Bellay et surtout Rabelais, pour qui le vin permet même d'atteindre la connaissance. Alors son personnage gargantois, la première chose qu'il fait en venant au monde, c'est de crier « à boire !» tandis que son autre héros, Pantagruel, s'adresse aux buveurs infatigables. Il les invite à trinquer, car, écrit Rabelais, « boire est le propre de l'homme, boire vin bon et frais, et de vin divin on devient. Ô bouteille pleine de toutes de mystères, d'une oreille je t'écoute, en la tant divine liqueur, qui est dedans tes flancs recloses, Bacchus, qui fut d'Inde vainqueur, tient toute vérité en close.
À l'époque, Anthony Rollet, il n'y a personne, bon, on sait que Rabelais aimait bien la dive bouteille, mais il n'y a personne, même les moines, Saint Thomas, non seulement ne disent pas, personne ne dit aux gens de boire le vin avec modération, mais on recommande même ça, de boire du vin. Je crois qu'il est bon pour la santé, il a la réputation d'être bon pour la santé, surtout parce que l'eau a une réputation détestable.
Très juste.
Dangereuse.
Très juste, mais ne jamais oublier toujours l'ambivalence dont nous parlions au commencement de l'émission. On doit boire, c'est bon pour la santé. Vous le disiez, il y a même des tableaux exactement comparables, on en cite un dans le livre, du XIIe siècle, à ceux des magazines féminins actuels. Le vin rouge, blanc, de telle région, de telle autre, est conseillé à tel type de femme, jeune, âgée, etc. Donc, c'est un effet médical. Ça reconstitue. C'est pour ça qu'aux hospices de Beaune, on donnait abondamment, suivant les maladies, bien sûr, du vin, quelquefois plusieurs litres par jour. Ça a un effet en même temps diététique. Là, j'en parlais pour les vieux, pour les femmes, évidemment en fonction des professions, le soldat, etc. Et ça a aussi une importance capitale, c'est l'usage du vin permet aux médecins de faire passer un certain nombre de remède.
On sait que plus tard, hein, au 19e siècle, Pasteur dira que c'était la plus saine des boissons. Je répète, c'est encore une fois parce que l'eau était extrêmement dangereuse. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Nous avons parlé avec vous essentiellement de l'origine du vin, Anthony Rollet. On trouve dans votre livre aussi toutes les régions où il est produit, dans le monde et puis en France aussi. Hein, vous avez évoqué le Bourgogne, mais aussi le Bordelais. Et Bordeaux était la plus grande, était la capitale du vin à l'époque à cause de la consommation des Anglais. Même à Paris, on produisait du vin.
Et les Hollandais, d'ailleurs.
Et alors, il y a eu une évolution aussi dans les techniques des transports. C'est par exemple le transport ferroviaire qui a permis d'en acheminer. Il y a une page très intéressante, deux pages très intéressantes sur l'évolution aussi du contenant. Hein. Je crois qu'au début, la bouteille, en fait, est assez récente et le bouchon de liège aussi.
Oui, tout à fait. La bouteille, grosso modo, il n'y a pas de bouteille telle que nous la connaissons. Ce sont des carafes. On met en carafe au moment de servir. Et la carafe, elle est souvent, à ce moment-là, à forme carrée, quelquefois rectangulaire. Elle est instable, elle est fragile, du col et du bas, elle tombe souvent par terre, donc il faut... on l'utilise pas. On utilise plutôt le pot. Donc il faut chercher un récipient qui soit... qui permette de vieillir, parce que les vins vieux, contrairement à ce qu'on croit, ça existe juste à l'époque dans la tête des gens, quelquefois dans les écrits. Et donc, ici, pour avoir du vin qui dure, il faut un bouchon. À l'époque, on bouche avec un bouchon de liège. Avec un bouchon, pardon,
de lin huilé.
De lin huilé, oui. Exactement. Donc, ce sont les Anglais et les Espagnols qui vont faire progresser les deux. Les Espagnols pour le bouchon de liège et les Anglais pour l'invention de la bouteille. Et, avec une idée géniale, c'est non seulement la bouteille à long col, mais en même temps à fond creux. Car, faites l'expérience chez vous, si vous avez deux récipients de ce type, la bouteille à fond creux tient beaucoup mieux sur la table. On va ensuite la clisser comme une fiasque de vin italien que les gens connaissent bien. Et à partir de là, ça permet de voyager dans toute l'Europe. Il n'y a qu'à regarder les tableaux ou les films de KPDP, on les voit sur les selles des chevaliers.
Ah, beaucoup d'autres progrès ont été faits, on n'a pas le temps d'en parler dans cette émission, d'en parler dans votre livre. On constate simplement quand même depuis à peu près un siècle, depuis disons la Première Guerre mondiale où on a beaucoup bu de vin, un déclin considérable de la production de vin. Je crois que c'était 162 litres en France par habitant et par an en 1900, 60 litres aujourd'hui. Est-ce que le vin a un avenir? On a l'impression que les jeunes, par exemple, s'en désintéressent totalement. Tant mieux d'ailleurs. Hein.
Écoutez...
tant mieux, oui et non, ça dépend ce qu'on recherche.
Non, je vous dirais non, parce que j'enseigne à Sciences Po, à séminaire d'alimentation et de gastronomie depuis des années, et je peux vous dire que je fais des séances sur le vin, et que garçons et filles sont amateurs et consommateurs. Ce que vous avez dit est très juste, la guerre de 14, c'est à la fois l'apogée, c'est une guerre du vin. On boit 7 litres par jour. Ce qui change, c'est, à la place de la quantité, le passage à la qualité. Le 20e siècle. On n'a jamais aussi bien bu de ce point de vue-là en France et dans le monde.
Merci Anthony Rollet. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Jean-Claude Ribaud d'un ouvrage sur le vin, donc, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection de collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, Ulysse de Mario Camerini et Les derniers jours de Pompéi de Sergio Leone, tous trois disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation et archives sonores, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Caroline Chausset. Revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.